C'est un plaisir d'être là avec vous. Je pensais à ce verset dans la parole qui dit que nous sommes prédestinés à être l'image de Christ. Et plusieurs fois, je me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une image, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se projette, c'est quelque chose. Et être à l'image de Christ, et je suis sûr que ce n'est pas ça, mais mon imagination part dans tous les sens. Et j'imagine chacun d'entre nous d'être un pixel de cette image de Christ, de la gloire. Et c'est pour ça que nous sommes de plusieurs couleurs. Vous savez, le diable, il s'est servi de nos couleurs pour faire tout un problème. Quand le diable attaque quelque chose, je me dis, il y a quelque chose là. Il y a une raison pourquoi il l'attaque. Et vous savez, il y a forte chance que Il a voulu que nous soyons pour justement donner une image en couleur de Christ. Et quand le Père regardera, il verra cette épouse de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, et dit, ah, oh, qu'elle est belle. Et les pixels, ce sera des milliards de milliards, des millions et de millions de pixels. C'est encore plus précis que vos appareils photo. Ce sera une jolie photo d'une mariée. Bon, c'est ça que j'imagine, hein, mais après, bon. J'imagine que ce sera mieux que ce que je peux imaginer. Mais on sera tous dans la gloire. Et les anges vont regarder. Et s'il y a une minute de silence dans le ciel, c'est parce qu'ils seront là à la bouche bée. Qu'est-ce que le Seigneur a pu faire? Il s'est dépassé encore. Et il a fait quelque chose de beau. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Voulons ouvrir la parole de Dieu. Déjà un premier verset, ça va être la base de mon tremplin, mais en même temps, c'est toute la pensée de ce matin. C'est Éphésiens chapitre 6 et verset 21. Éphésiens chapitre 6 et verset 21. Donc, ce sont dans les salutations à la fin de l'épître. Paul écrit à l'église d'Éphèse et dit, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. Et voilà ce qui m'intéresse, c'est cette partie suivante. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre du Seigneur, vous informera. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre du Seigneur. C'est la pensée de ce matin. Je vais le répéter souvent, mais le mot ministre là, dans le grec, c'est le mot diakonos, diakonos. Et vous allez voir que le mot diakonos est traduit de différentes manières dans nos Bibles. Et donc c'est pour ça que je vais revenir, non pas pour un peu vous montrer, faire croire que je connais un peu de grec, mais parce que pour qu'on ait un sens, tous les autres mots, que ce soit serviteur, ministre, diacre, on associe des idées préconçues. Donc, pour que l'on n'ait pas d'idées préconçues, je vais me limiter au mot diakonos. Restons avec le mot diakonos, il veut dire donc un bien-aimé frère et fidèle diakonos dans le Seigneur. Dans le Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 4, verset 7. Versets 7 et 8, en fait. Mais il dit, donc à l'église de Colosse, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, c'est là encore, c'est diakonos, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez maintenant notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Paul emploie le terme et dit, je vous envoie Tychique, le diakonos. Il a une mission, il a une charge. C'est celle d'apporter des nouvelles à l'Église et leur dire, voilà comment, dans quel état je suis. Ils avaient appris qu'il avait été très malade. Et que là, eh bien, il est rétabli. Et ils avaient beaucoup prié, donc il leur envoie les frères. Donc ils ont une petite mission, celle d'apporter des nouvelles concernant Paul. Voilà. Mais c'est des fidèles ministres, des diaconos. Quel était son ministère à Tychique? Eh bien, il nous dit, mon compagnon de service, celui qui est avec moi. Il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit l'évêque, il n'a pas dit le... Il a dit mon compagnon de service. C'est celui qui est là, à côté, et qui sert là où il peut être utile. Vous êtes dans Colossiens, regardez au chapitre 1, tout au début de la lettre. Colossiens chapitre 1. Et les versets 6 à 7, la phrase commence au verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle diaconos de Christ, qui est pour vous un fidèle serviteur, un fidèle ministre, un diaconos de Christ. Pour vous, vous en tant qu'Église, eh bien, il est là, c'est un frère, Épaphras, c'est quelqu'un qui est là et qui sert, qui est toujours disponible, disposé, est là pour le bien de l'Église et qui cherche le bien de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens, et je veux vous montrer que c'est quelque chose de très courant, c'est une expression que Paul emploie beaucoup. 1 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 2. Le verset 1 commence, la phrase commence au verset 1, c'est pourquoi impatients que nous étions, et nous décidant de rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre ou diaconos de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Il parle de Timothée, ce petit jeune qu'il avait en passant par Colosse. Eh bien, l'Église lui a dit, écoute, Timothée, là, voilà, il est gentil, il est bien disposé, il peut aller avec toi? Il dit, oui, il sera mon diaconos, il va être celui qui va m'accompagner, et que quand j'enverrai dans une mission, écoute, retourne, apporte des nouvelles, va faire, il sera là. Mais déjà, tout jeune, c'est adolescent peut-être, mais un diaconos de Christ, de Dieu. Et ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Vous rendez compte, ça c'est un titre. Regardez avec moi dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, ce sont les salutations à l'église de Rome. Paul n'y avait pas été encore, mais il y a pas mal de monde qu'il connaît déjà à Rome. Et Romains chapitre 16 et les versets 1 et 2, il dit, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse. Et là, c'est le mot, hein, c'est le mot diaconos, hein, c'est, mais au féminin. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle en aura besoin de vous, car elle a aidé plusieurs et moi-même. Et à moi-même. Elle a été aidée dans plusieurs et à moi-même. C'est Phébé se rend à Rome. Paul écrit, dit, écoutez, recevez-la bien parce que c'est une diaconesse dans l'église. C'est quelqu'un qui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu service à pas mal de personnes et elle m'a rendu service. Donc là maintenant, elle va être dans le besoin, rendez-lui service. Quel était son ministère? C'est de rendre service aux saints. Et pour Dieu, eh bien, et l'apôtre Paul comprend cela, eh bien, c'est une diakonos, c'est une servante du Seigneur. Et donc, nous voulons la respecter pour cela. Un Corinthiens, chapitre 3, et au verset 5. Le problème, il est mentionné au verset 4, il dit « Quand un dit « Moi, je suis de Paul », un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ?» C'est-à-dire, n'est-ce pas charnel ? Verset 5, « Qu'est-ce que donc Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ?» Des serviteurs, des diakonos, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, que le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit, c'est pas, il n'a pas dit des apôtres, il n'a pas dit, de Apollos on pouvait dire, mais c'est quelqu'un, le Seigneur lui a donné un talent de la de prédication, il maîtrisait le verbe. Il dit non, avant tout ce que nous sommes, c'est des diacres, diakonos, des serviteurs que Dieu utilise, et pas plus. Et c'est comme ça que nous devons comprendre. Ça, c'est la pensée du Nouveau Testament. Vous savez, en fait, les éditeurs de nos Bibles, que ce soit en français ou que ce soit dans d'autres langues aussi, eh bien, ils nous créent un peu de confusion en traduisant ce mot différemment chaque fois. Et en fait, nous, quand on pense ministre, c'est un truc honorifique. Après, il dit serviteur, oui, c'est d'accord. Et puis après, diacre, ça aussi, l'usage lui donne un certain titre. Et ils nous ont fait un tort. Parce que, en fait, ils sont en train de mettre en valeur un clergé. Et dans l'Église primitive, il n'y avait pas de clergé. Il n'y avait pas des gens qui avaient des titres, et puis chacun son rang, et puis après. Et il y avait que des serviteurs de Dieu. Et toute l'Église était composée de serviteurs de Dieu, de diakonos, de gens qui sont ce cœur de diacre, de serviteur, prêts à servir. Et lorsque, dans l'Église, lisez l'histoire de l'Église primitive, dès qu'on a dépassé ce stade de persécution, les premiers siècles, et bien après, tout d'un coup, l'Église s'est structurée. Et on a commencé à avoir des évêques et des diacres et des ceci et des cela. Et c'est devenu tellement compliqué. Et vous regardez maintenant, vous regardez les églises les plus anciennes, genre l'église catholique ou orthodoxe ou tout ça, et vous avez toute une hiérarchie. Et c'est arrivé au point que même aujourd'hui, quand vous dites l'église, eh bien, ils font référence uniquement au clergé. Jamais. Les gens, les croyants ne sont pas appelés l'église. C'est seulement le. Tous ceux qui ont des titres, et tous ceux, c'est le clergé. Et cette manière de voir, ça a tué l'Église. Et lorsque c'est arrivé, eh bien, l'Église est passée par une période qu'on a appelée le Moyen-Âge. Et nous devons faire très attention, parce que c'est la tendance humaine. On aime bien, déjà les disciples avec Jésus-Christ, déjà eux, ils commençaient à discuter, bon, pas devant Jésus, derrière, en tous les cas, et discuter qui est le plus grand. Et c'est un truc qui est tellement humain, mais ça ne doit pas pénétrer dans l'Église. Et nous sommes, Paul dit, il n'y a pas ministre et serviteur et ceci, cela, tous diakonos de Christ, tous diakonos de Dieu, diakonos de la cause de Dieu. Et c'est cette attitude-là que nous devons chercher, c'est celle-là que nous voulons trouver. C'est pas étonnant que ça tombe dans l'église de Corinthe, qu'il y ait ce problème. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de. Ben, c'était une église charnelle. Et là où il y a la chair, bien sûr, ça va apparaître. Et lorsque nous arrivons à commencer à avoir des pensées, ou qui est ceci et celui-là, et ce que l'autre, et ce qu'il veut, et ce qu'il va devenir, et puis pourquoi lui, pourquoi pas moi, et dès que, eh bien c'est la chair n'importe comment. Et nous devons éviter cela. Nous devons revenir à la pensée primitive de la pensée de Christ, l'Église de Christ. Nous sommes tous, avant tout, des serviteurs. Quand je parle de ce mot diaconos, je ne suis pas en train de parler de la fonction de diacre, l'Écriture parle des évêques, parle de diacre. Mais même, regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, je vais prendre diacre, je ne vais pas prendre évêque, je vais prendre diacre parce que ça ressemble, mais 1 Timothée chapitre 3, il dit les évêques aussi doivent être honnêtes, éloignés, ils doivent l'être déjà. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus, ils ont été élus évêques, que maintenant ils doivent remplir ces conditions, ces qualités. Non, les qualités d'évêque, ils les avaient avant d'être nommés évêques. En fait, c'est parce que tous dans l'Église doivent vivre, et c'est vers quoi nous voulons tendre, tous doivent vivre ces qualités de diakonos. Hein, c'est le mot diakonos, là. Et même si certains, on confie une charge particulière à certains, une charge, officielle, mais ils sont prélevés parmi ceux qui sont déjà en train de vivre cette vie de diakonos. C'est pas... En fait, tous, nous devons chercher à vivre cette vie. Le verset 13, je pense qu'il s'applique à cela, mais il s'applique à tous ceux qui vivent cette vie et cette attitude. Ce n'est pas un titre, c'est un comportement. Et au verset 13, il dit « Et ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Le Seigneur honorera les gens comme Tichic, les gens comme Onésime, les gens comme Épaphras, les gens comme Phébé. Et même Paul dit, moi avant tout, je suis qu'un diakonos. Et Apollos, avant tout, n'est qu'un diakonos, à qui le Seigneur a confié une mission particulière. Et ce que nous ne voulons pas, et c'est ce que l'Église, c'était pas dans la pensée de Christ, de créer des élites dans l'Église. On en souffre assez dans le monde. Et le monde, il est ce qu'il est, et on ne pourra pas le changer. Parce que s'il suit la pensée de son maître. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Christ, alors ça, c'est la pensée de Christ qui doit dominer. On ne pend pas les pensées du monde et on les applique dans l'Église. Non, dans l'Église, on va puiser les pensées dans la parole de Dieu. Et toujours. Et c'est cette attitude-là qu'il faut. Et pour chacun, c'est pas, il ne faut pas regarder celui d'à côté. C'est moi. Est-ce que moi, je suis un diakonos selon Christ? Est-ce que j'ai cette attitude? Dieu, il nous dit, nous sommes un corps. Et nous sommes des membres de ce corps. Et chaque membre, il a sa capacité, sa mission, sa fonction dans le corps. Et chacun, parce qu'il est membre, eh bien, il sert. Il remplit sa fonction. Il a cette attitude de diakonos dans le corps de Christ. Et Dieu a bien fait les choses. Et c'est lui qui donne à chacun. Votre corps, vous regardez votre corps, des fois, il y en a qui sont un peu déçus par leur corps. Je prends un exemple comme ça. Votre nez. Si vous avez l'option de le mettre ailleurs, vous le mettriez où? Je vais le laisser où il est. Parce que c'est pire ailleurs. Et vous savez, mais dans l'Église, le corps de Christ... C'est la même chose. On ne déplace pas les gens comme ça, rien que pour l'honneur de quelque chose. le Seigneur place ses membres dans le corps et lui confie une fonction. Phébé, c'était de venir en aide des serviteurs de Dieu. Et Paul l'a reconnu. Et il a envoyé le mot de recommandation, il a dit, et reconnaissez-la pour sa fidélité. Onésime, c'était un voleur, il avait volé son maître et puis il était sauvé avec les sous. Il a rencontré Paul dans une prison, sa vie a été transformée. Il revient à Colosse, d'où il est parti, et dit, un frère bien-aimé, fidèle. Oh, que ce soit la vérité, que ce soit pour chacun d'entre nous. Et nous ne allons pas chercher nos idées dans des autres églises. Nous cherchons ce que nous voulons être dans la parole de Dieu et pas ailleurs. Parce que tous les mouvements, tous ils sont un peu influencés, chacune est influencée un peu par la chair, et puis nous, on ne peut pas l'éviter non plus, certainement. Mais cherchons, revenons toujours à la parole de Dieu. Et que chacun d'entre nous, nous ayons cette attitude de service pour reconstituer la pensée de l'Église primitive, simple, mais consacrée. Celle qui était évangéliste, celle qui y partait partout et témoignait. On ne pouvait pas les faire taire. Mais lorsque on a créé le clergé, et on a dit c'est le clergé qui s'occupe, à partir de là, il n'y avait plus de prédication, plus d'évangélisation, et l'Église est passée par une période très difficile, où tout le monde l'est devenu plus ou moins, et il y a eu une période d'histoire qui n'est pas belle. Vous savez, je vais toucher à des choses sensibles, mais c'est pas. On est là entre nous, et on veut le bien de l'Église de Jésus-Christ. C'est basé sur des versets bibliques qu'à une certaine époque, eh bien, on s'est dit que le peuple africain est un peuple maudit et on peut en faire des esclaves et les traiter comme des animaux. Et c'est basé sur des versets bibliques mal interprétés. Et on dit, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Si on commence à vouloir interpréter les choses d'une certaine manière. Il y a d'autres choses qui sont arrivées. Il y a une période où on a dit, et c'était l'Église encore une fois, qui a dit, écoutez, si vous allez libérer les lieux saints de Palestine, eh bien, ça va vous effacer plein de péchés devant Dieu. Et alors, on a inventé les croisades. Et les croisades se sont allées faire un massacre tout le long du chemin et en place, au point que les populations, encore aujourd'hui, ils gardent des mauvais souvenirs de ces croisades. Et ils portaient le nom de Christ. Et ça a fait un tort terrible. Mais tout ça, c'était basé sur, ouais, pour Christ. Après, il y a eu d'autres idées qui sont circulées. Il y a eu cette idée qu'on allait améliorer la race humaine et l'idéal, c'est qu'il soit blond aux yeux bleus et que tous les autres, eh bien, on allait s'en défaire parce qu'ils n'étaient pas utiles. Et ça a mené à un massacre terrible aussi. Et tout ça, et il y avait des chrétiens dedans. C'est terrible, on a du mal à le croire. Mais vous savez, on est capable et nous devons faire attention nous-mêmes. C'est facile de les critiquer, mais nous devons faire très attention dans nos pensées et nos manières de voir. Il y a les témoins de Jéhovah que vous connaissez très bien, qui circulent de partout. Et chez eux, eh bien, il y a les élus, l'élite. Eux, ils vont aller au ciel. Et les autres, ils vont rester sur terre. Il y a les 144 000, c'est les élites qui vont au ciel. Et puis les autres, ils restent sur terre. Comment avoir un corps de Christ uni alors que les uns sont ici et les autres sont là-bas? Mais c'est avec la Bible ouverte qu'il le prêche. Et j'ai rencontré déjà, même ici dans la région, j'ai rencontré d'autres groupes qui ont deux vitesses dans l'Église. Il y a les vainqueurs et puis il y a les autres. Les vainqueurs vont au ciel, les autres sur terre. Et on est en train de. C'est toujours la chair qui veut et qui est en train d'essayer de créer des élites, créer des uns qui sont supérieurs aux autres. Ne séparons pas et ne faisons pas ce que Dieu n'a pas fait. Dieu aime le monde entier et il veut que tous soient sauvés. Et nous ne pouvons pas permettre d'avoir une pensée où le monde se divise au lieu d'être... L'Écriture nous divise le monde entre les sauvés et les perdus. Mais on ne veut pas diviser le monde entre les élus et les non-élus. Ça, c'est une division. Alors, il y a les uns... les privilégiés, et puis il y a les autres, tant pis pour eux. Dieu est un Dieu qui nous aime tous. Son image est imprimée dans chacune de nos vies, sur chacun de nos visages, et il veut nous sauver tous. Il sait que tous ne seront pas sauvés, mais il veut. Et nous ne devons pas permettre... qu'une pensée de clergé se développe dans nos églises. Et où il y a... Et je sais, il y a certaines églises... Oui, pasteur, c'est l'homme de Dieu, ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. Et le peuple souffre. Chacun de nous sommes avant tout. D'abord, des pécheurs sauvés par grâce. Et ensuite, nous sommes... des diaconos dans l'Église de Jésus-Christ. Après, les fonctions peuvent varier. Et elles sont toutes utiles. Mais soyons d'abord... Dans l'Écriture, je trouve deux exemples de diaconos, un mauvais exemple et un bon exemple. Dans Jean chapitre 13, et vous savez, c'est dans la chambre haute, hein, et c'est la veille de la crucifixion de Christ. Je pense que vous connaissez assez bien le récit, je ne vais pas lire tout ce passage. Mais les disciples arrivent dans la chambre haute pour célébrer la Pâque. Et ils sont là, et y a personne de prévu pour laver les pieds. Alors tous se mettent à table avec les pieds sales. Ils ont marché dans les rues où il y a les ânes, je vous laisse imaginer tout ce qu'il y a pu avoir. Ils rentrent là-dedans et puis ils se mettent, personne ne lave les pieds. Et il n'y a pas un qui se dit, bon, ben il n'y a personne, ben bon, écoute, moi je vais le faire. Hein. Non, tout ça, ils sont tous des chefs, tous des coqs. Et Jésus... il regarde, il fait le tour. J'imagine que ça devait être dur pour lui. Ça fait 3 ans et demi qu'il marche avec ces gens-là et il n'y en a pas un qui est disposé à servir. Tous les chefs. Jésus se lève. Il va être saint d'un tablier. Il verse de l'eau dans un bassin, il prend un chiffon. Vous aurez imaginé que dès qu'il fait ça, il y a quelqu'un qui se lève, qui dit non, je m'en occupe, fais pas ça. Bah, il n'y en a pas un qui bouge. Jésus s'approche, les pieds du premier, il lui lave les pieds, on le laisse faire, il n'y en a pas un qui bouge, il n'y a rien qui dit quelque chose. Il arrive... jusqu'à Pierre. Et Pierre dit, toi, tu vas me laver les pieds? Non, mais... Jésus lui dit, écoute, pour que je te lave les pieds. Moi, le maître, celui que vous appelez maître et seigneur, et je le suis, ça convient. Mais moi, je vais te laver les pieds. Alors, il dit, mais si c'est toi qui laves, si j'ai besoin de te laver, lave-moi tout entier. Jésus dit, non, non. Mais imaginez que ça existe, que ça se passe comme ça. Et puis alors, il dit, bon, alors, vas-y. Et puis, il fait le tour, il n'y a pas un qui bouge. Et Jésus termine, il range l'eau sale, et puis après, il reprend sa place. Lui qui allait le lendemain mourir pour eux. Mais il n'y avait pas un serviteur là-dedans. Il n'y a pas un diaconos dans la douzaine, là. Bon, Judas est parti. Bon, tant mieux. Les onze, il n'y en a pas un diaconos là-dedans. C'est triste. Il n'y a pas un qui est prêt à servir un autre. Et je ne sais pas que Jésus, comment il avait lavé les siens. Peut-être il s'est lavé tout seul. Vous imaginez, vous rendez compte. Mais vous imaginez dans une église où tout le monde vient, et comme on dit en français, on dit on met les pieds sous la table, et puis voilà, serre-moi, apporte-moi. Pasteur, tu ne m'as pas appelé cette semaine. Si diacre tel, écoute... Tu ne m'as pas ceci et puis l'autre, et puis on est là, on se plaint, les pieds sous la table, il n'y a pas un qui bouge. Vous imaginez ce que ça veut dire à Jésus-Christ quand il nous regarde? Qu'est-ce que ça peut lui faire mal de voir une telle attitude? Parce qu'il n'y a pas un diaconos dans le tas. Il en aurait suffi un pour que tout le monde ait les pieds lavés. Un bon exemple, c'est Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, où ils ne sont jamais appelés des diacres, mais ils ont les qualités. Actes chapitre 6, il y a un problème dans l'église primitive. Une église est composée de gens pécheurs. Hein. Donc il y a des problèmes. Et là, il y a on sert les tables, on sert les veuves. Mais ce qui arrive, le problème, c'est que, eh bien, on sert les veuves des Hébreux et on oublie les veuves des Hellénistes, qui sont des Juifs, mais de culture grecque. Eux, c'est des mélangés. Et alors, les chrétiens d'origine helléniste, ils viennent voir les apôtres et disent, mais il y a un problème, nous, nos veuves ne sont pas servies. Et l'apôtre Pierre et les autres apôtres, ils disent, mais on comprend le problème et on va le régler. C'est un problème de servir les repas. C'est tout. C'est de distribuer de la nourriture, c'est tout. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. C'était là. C'est pas qu'il manquait, il n'y avait pas assez pour tout le monde, c'est que ça ne se faisait pas. Et regardez les hommes qui sont disposés à le faire. Ils en trouvent sept. Il fallait en choisir sept, ils en trouvent sept. Et les qualités de ces hommes, c'est des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui se verset 3, plein de l'Esprit Saint et de sagesse. C'est des hommes de qualité. Vous savez, depuis on dit, bon, le travail ça, bon, ramassage après le repas fraternel, bon, ben, ça c'est pour ceux qui... Bon, ils ne connaissent pas bien la Bible, ils ne peuvent pas enseigner. Bon, ben si, ça, c'est pour cela-là. Ce n'était pas comme ça qu'ils pensaient dans l'Église primitive. Il dit que c'était les hommes de qualité qu'on choisissait. Des hommes remplis de l'Esprit. Ils disent, mais ça sert à quoi d'être rempli de l'Esprit pour faire la vaisselle? C'est l'œuvre de Dieu. Et tout ce qui se fait dans l'Église doit être par des personnes remplies du Saint-Esprit. Que ce soit un chant, que ce soit la sono, que ce soit, peu importe, celui qui fait le ménage, il ne le fait pas pour être bien vu, il le fait pour le Seigneur, c'est son service. Je suis diaconos du Seigneur. Et puis, je fais remarquer en passant, vous lisez les noms des diacres, il n'y en a pas un qui a un nom juif. C'est tous des noms grecs. Ils ont été chercher ces hommes chez les hellénistes. Le problème était là, ils ont été chercher des hommes hellénistes pour remplir la tâche. Et ils l'ont fait. Après, bon, le Seigneur a utilisé ces hommes. On connaît Étienne et Philippe. Étienne, qui lui est devenu le premier martyr, mais c'était quelqu'un qui avait les capacités de parler et de confondre les pharisiens et leurs meilleurs docteurs de la loi. Il pouvait les confondre. Et qui a certainement eu une grande influence sur l'apôtre, sur Saul de Tarse, hein, qui est devenu l'apôtre Paul. Et Philippe, lui, il est devenu évangéliste. Et c'est lui que le Seigneur a choisi pour rencontrer l'Éthiopien. Mais il a commencé comment ? Disponible pour servir la table des veuves. C'est même pas servir la table des apôtres. Vous savez, dans le monde, les choses, les règles sont autres. On divise le monde autrement dans le monde. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, toute personne est précieuse. Depuis l'enfant dans la crèche jusqu'à celui qui ne peut plus marcher. Celui qui est sans papier jusqu'à celui qui a des diplômes. Celui qui, peu importe, nous ne regardons pas comme le monde regarde. Nous regardons une âme précieuse que Dieu a créée. Et il n'y a pas de plus grand privilège que de servir une personne que Jésus-Christ a rachetée par son sang. Dans l'évangile de Matthieu, et au chapitre 23, Matthieu chapitre 23, verset 11, nous dit « Le plus grand parmi vous sera votre diakonos. » Le plus grand parmi vous sera votre diakonos. Il dit « Voilà, ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. » Un peu dans le même sens, regardez le verset 20, chapitre 20, Matthieu chapitre 20 et verset 26. Il dit, il sera de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre diakonos. C'est clair, vous n'avez pas besoin de connaître le grec pour comprendre. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc vous voyez, oui, le rang du diakonos. Et verset 28, très intéressant. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être diaconé, c'est le même mot, hein, mais pour diaconé et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il dit, moi, je suis par excellence, je suis le diakonos. Et je suis venu pour faire l'œuvre d'un diakonos. Je suis, il dit, moi, c'est le plus grand, il a dit, chez moi, c'est autre chose. C'est celui qui est là pour servir les autres. Pas parce qu'ils sont dignes, pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Ce sont mes frères. Ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et comme j'aime l'Église de Jésus-Christ, eh bien j'aime toutes les parties de l'Église de Jésus-Christ. Jean chapitre 12, pour voir un peu cette proximité du cœur, Jean chapitre 12 et au verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon diakonos. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il dit là où je suis. Le diakonos, il est là toujours, il a les yeux sur Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la chambre haute, normalement, les disciples auraient dû comme ça, puis dès qu'ils ont vu Jésus regarder vers la bassine, ils auraient dû, en fait, ils auraient dû tous les 11 sauter. Ils ont dit, laisse-moi faire. Parce qu'il a compris que Jésus a vu qu'on a besoin de laver les pieds. Et il a les yeux fixés sur son maître, le diakonos. Et dès qu'il sait que le Seigneur voit un besoin, il n'attend pas qu'on lui demande, il le fait pour répondre aux besoins. C'est une attitude. C'est de parmi des gens comme cela qu'on cherche des gens qui vont prendre des responsabilités, qui vont avoir des responsabilités officielles dans l'Église. Mais c'est parmi les diakonos, hommes et femmes, sœurs et frères. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Tout à l'heure, on a vu le mauvais comportement dans l'église de Corinthe. Mais ici, l'apôtre Paul nous décrit ce que c'est qu'un vrai diakonos de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, et je lis les versets 4 à 10. Regardez bien, et puis cet après-midi, vous pourrez reprendre votre stylo pour revoir ça. Donc au verset 4, il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme des diakonos de Dieu. Comment est-ce qu'ils se rendent recommandables? Ah, j'ai fait une formation biblique, je connais bien ma Bible, je connais ceci, cela. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'Église. Non, c'est pas comme ça qu'il a parlé. Regardez, il dit, nous sommes rendus recommandables comme diakonos de Dieu par beaucoup de patience. Ah, patience. Et patience, vous savez, la patience, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas moyen d'exercer la patience. Et il dit, de la patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Il dit, avoir de la patience lorsque tu traverses toutes ces choses-là et tu restes patient. Oh, vous savez, c'est pas comme ça qu'on est éduqué à l'école publique. Hein. Râle. T'es pas content. Plains-toi. Défends-toi. Il dit, non, le diakonos, qui est selon la pensée de Dieu, il est avant tout patient dans toutes les circonstances. Verset 6, il continue la liste. Par la pureté de sa vie, par la connaissance, par la longanimité, me dites, bon, ça, c'est pas un mot que j'ai entendu à l'usine. Là, je suis sûr. J'ai même été hier soir chercher dans le dictionnaire pour être sûr que je comprenais le mot. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, la longanimité, c'est être patient quand vous pouvez intervenir sur la situation et mettre fin et vous continuez à être patient et vous ne faites rien. Vous laissez continuer. Vous avez le pouvoir d'intervenir et vous ne faites rien et vous continuez à être patient. Bon, je pense que l'image, le modèle de patience, c'est Jésus-Christ. Hein. Parce que lui, si tu ne suis pas, il peut t'écarter. Hein. Lui, il règle les problèmes, il peut régler avec un mot, il règle le problème. Mais il est patient avec nous. Il a été patient avec les disciples et au bout de 3 ans et demi, ils ont échoué hein, l'épreuve. Mais il a commencé. Il n'est pas crié dessus. Il a dit, écoutez, souvenez-vous de ce que je viens de faire, et puis un jour, vous ferez comme j'ai fait. Et heureux celui qui fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire qui est diakonos. Heureux sera-t-il. C'est être patient alors que il y a d'autres options. Mais on veut être patient parce qu'on donne le temps à Dieu de faire son œuvre. Nous sommes tous des chantiers. Et ces chantiers, eh ben, ils progressent. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres. Il y a des chantiers qui ont été abandonnés pendant un temps. On s'est écarté du Seigneur, on n'écoute plus le Saint-Esprit, on a fermé la Bible. Et le chantier, il y a des mauvaises herbes qui sont développées, des animaux sauvages qui sont installés, toutes sortes de choses. Et puis après, on revient en disant, Seigneur, on revient. Il dit, bon, on va rentrer là-dedans, on va faire le ménage et puis on continue le chantier. Alors que le Seigneur, il aurait pu dire, mais ce chantier-là, il est condamné, hein, il peut laisser tomber. Non, il revient, il est patient. Il dit, le serviteur de Dieu doit être le diakonos du Seigneur, il doit avoir cette même attitude. Il dit donc, par la longanimité, par la bonté. C'est la bonté, ça s'exprime par des actes. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire à quelqu'un, je suis bon. C'est l'autre qui décide si je suis bon. C'est celui qui reçoit qui décide si je suis bon. Par la bonté, par un esprit saint, par une charité ou un amour sincère. Le mot sincère, ça veut dire sans hypocrisie. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'apparence, c'est du vrai. Verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Allez lire Éphésiens 6, vous saurez de quoi il parle. Verset 8, au milieu de la gloire, il continue à avoir cette attitude de diakonos, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu des mauvaises et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à la mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Il dit, ça, c'est l'existence du diakonos. Et ça, on a des gens qui viennent et puis disent, moi je suis prophète, moi je suis apôtre. Écoute, sois d'abord diakonos. Il vient prêcher un message, un évangile de prospérité. Il dit, donnez à mon église et Dieu vous bénira. Mais d'abord, moi je serai béni avec ce que vous donnez, puis on verra pour le Seigneur. Et il s'élève au-dessus des autres. Ce n'était pas l'attitude de Jésus-Christ. En fait, maintenant que j'y pense, il y avait un verset que j'ai oublié, où Jésus lui-même est appelé un diakonos. Romains chapitre 15, c'est important, Jésus lui-même, Romains chapitre 15, verset 8. Alors, ne croyons pas qu'on ne soit meilleur que lui. Il dit... Romains 15, verset 8, il dit, je dis en effet que Christ a été serviteur, diakonos des circoncis, pour prouver la vérité, véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Il a été le diakonos. C'est par là qu'on commence, et c'est là qu'on reste. Peu importe les charges qui peuvent être confiées, mais nous sommes tous appelés à être diakonos dans les églises de Christ, parce que nous appartenons au corps de Christ. Timothée chapitre 4 et verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. À l'église de Fréjus, on est en train d'étudier 1 Timothée et on est arrivé à ce chapitre 4. Et le verset 6, Paul dit à Timothée, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon diakonos de Christ, de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Tu seras... Je croyais qu'il était le pasteur. Non, tu es le diakonos. Tu es le serviteur de tous. Et tu es là et tu cherches le bien de tout le corps de Christ. C'est-à-dire en gardant ces paroles, en instruisant ces choses, tu seras un bon diakonos. Tu es là pour exhorter, fortifier, encourager. Tu cherches le bien de l'Église. Peu importe ce que ça peut être. Il y avait, si vous avez été aux États-Unis, beaucoup d'églises ont des bancs. Et puis dans les bancs, ben, il y a un endroit où on peut mettre les Bibles ou les cantiques. Et puis après, il y a un petit trou là où on met les crayons. Et donc des crayons disponibles pour les gens qui viennent, et s'ils veulent prendre des notes, s'ils ont besoin de quelque chose, il y a un petit crayon. Eh bien, j'ai entendu que dans une église, il y avait une dame qui venait à l'avance tous les dimanches. Elle faisait le tour de tous les crayons et les taillait. C'était son service à l'église. Imaginez, vous voulez prendre une note et vous avez le crayon, et puis ah, la mine est cassée, vous n'êtes pas là, quelqu'un l'a emporté. Elle s'assurait qu'il y avait des crayons pour tout le monde. Ça, c'est des choses que le Seigneur remarque. Et elle venait à l'avance pour ça. Et la plupart des gens ne savaient pas que c'était elle qui le faisait. Elle faisait pour le Seigneur. Mais elle rendait service. C'est un besoin qu'elle a vu dans l'Église. Elle l'a pris à cœur et elle a pris pour elle. Elle dit, ça, je peux le faire. Ça, c'est l'esprit de diaconos. Être un diaconos de Jésus-Christ, c'est n'avoir qu'une préoccupation, le bien-être de tous ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je suis celui qui est égoïste, il pense qu'à lui. Et puis, il passe son temps devant le miroir et dit, oh, qu'est-ce que tu es beau. Bon, j'essaye de le faire, mais je suis déçu chaque fois. Mais, vous savez, celui qui est diaconos selon la pensée de l'Église primitive et ce que Dieu veut dans l'Église, c'est celui qui est constamment vigilant pour voir quels sont les besoins. Comment je peux aider? Comment est-ce que je peux apporter? Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été au Centrafrique, un beau pays, là. Il n'y a pas la pollution, il y a beaucoup d'arbres. Mais j'étais au Centrafrique, et là, Dieu bénisse les Africains, ils sont quand même extraordinaires. Mais j'ai ma sacoche là avec mes bibles, mes commentaires, et tout ça. Et il y a un petit jeune qui vient en courant, il prend, il dit, je vais le porter. Et puis il m'accompagne. Bon, je comprends, il fait ça, c'est le pasteur, tout ça. Mais lui, ce que je veux souligner, c'est le fait qu'il a regardé, il y avait plein de jeunes. Lui, il a regardé, il a dit, non, il a besoin que je lui porte sa sacoche, elle est lourde. Je vais la porter pour lui. C'était son initiative de venir. Puis il a dit, je porte. Et il l'a porté jusqu'à là où on a fait les réunions. Puis il l'a déposé. Puis après, il est parti. Je ne sais même pas son nom, ni rien du tout. Mais il a fait ça parce qu'il voulait servir le Seigneur. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas les grandes choses. Ne cherchez pas les titres. Ne cherchez pas d'avoir des casquettes. Mais le Seigneur verra tout ce qu'on fait, même si personne d'autre le voit. Je le fais pour Jésus-Christ. Être un diaconos de Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ et pour l'Église de Jésus-Christ. Et surtout, ne nous laissons pas entraîner dans des pensées de clergé et de hiérarchie et de ceci, cela. Parce que ce n'est pas dans la pensée de Christ. Sinon, il aurait fait avec ses disciples. Tout ça, c'est très bien. Ce que je vais vous dire, c'est que vous dites, ah, ça, ah, si ça pouvait être vrai. Eh bien, faisons-le. Faisons-le. Chacun pour lui. Pas de regarder, je vais voir si les autres vont le faire. Non, non, ben je commence. Avec la force que le Seigneur me donne. Vous savez, il y aurait moins de gens à épuiser dans l'Église de Jésus-Christ si tout le monde était diaconos. Ce qui arrive souvent, c'est quelques-uns qui font tout. Et après, ils sont fatigués. Et après, vous savez, les pensées qu'on peut avoir quand on est fatigué, oh, je m'arrête. Je ne peux plus. Et puis après, l'Église souffre. Après, on dit, bon, il faut. Non, il faut. Il y a des églises qui payent une femme de ménage pour venir. Le salaire. Vous vous rendez compte? Alors que la salle est remplie de gens qui font le ménage tous les jours chez eux. Bon, ils devraient. Bon, les adolescents, je ne sais pas s'ils le font ou pas, mais en tout cas. Il y a des adolescents, mais même s'il y avait un voleur qui passait par leur chambre, on ne le saurait pas. Parce que ça ne change rien. Mais vous savez, cette attitude Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'importance que Jésus accorde à son Église. C'est ça qu'il veut. Et vous savez, je vous dis quelque chose. Dieu veut des bonnes choses pour nous. Il veut nous donner, nous recevoir et dit, écoute, je suis mort sur la croix pour te pardonner tous tes péchés, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle qui t'empêche de rentrer dans l'Église de Jésus-Christ, la vraie, hein, pas le christianisme. Oh, le christianisme, vous pouvez rentrer, hein, il suffit d'un petit baptême et puis vous êtes rentré. Dans l'Église de Jésus-Christ, les vrais croyants, il te dit, écoute, moi c'est déjà fait, j'ai déjà payé le prix, c'est pas une charge supplémentaire, je suis déjà mort pour toi. C'est déjà fait, c'est déjà payé. Écoute, permets-moi d'effacer tes péchés. Laisse-moi faire. Donne-moi l'autorisation de le faire. Demande-moi juste de le faire, je le fais. Je suis prêt. Et je te reçois dans cette église qui pour moi est aussi précieuse qu'une épouse. Et il dit, et puis après je te donne une place. Tu es un pixel dans ce corps de Christ. Tu es un membre dans ce corps de Christ. Tu es, et tu peux servir le Dieu créateur de ce monde et le Dieu éternel. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du fait que Jésus-Christ va revenir pour nous prendre. Mais oui, ben si on le croit vraiment, alors ben, travaillons dans ce sens. Et allons dans ce sens et servons le Seigneur. On voudrait qu'il vienne et qu'il soit heureux de trouver. Moi, je vous dis la vérité, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Hein. Moi, je vous aime beaucoup et je vois beaucoup de bonnes choses. Hein. Je ne suis pas là en train de critiquer, mais on travaille toujours. Ma femme, elle est toujours après moi de faire mieux. Alors moi, je le passe sur vous. Hein. Voilà. Mais à la gloire de Dieu. Hein, que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces pensées. Parce qu'elles ne viennent pas du monde. Personne dans le monde ne nous a parlé de cette manière-là. Personne ne nous a dit que ça fonctionne de cette manière-là. C'est dans le monde, eh ben, c'est là où ils se marchent dessus. Ils se tirent dessus. Ils se détruisent pour monter. Seigneur, nous voulons une église où on se bat pour être les derniers. Et le serviteur de tous, le diakonos de tous. Et puis c'est toi qui confies les charges. Et tu donnes la sagesse à ceux qui prennent les décisions. Mais Seigneur, nous sommes tous, chacun d'entre nous, avant tout, nous sommes là pour servir le plus faible de parmi nous, le plus jeune, le plus nouveau, servir celui qui passe par un moment difficile et a besoin d'être porté, qui a besoin d'être encouragé. Seigneur, nous avons des outils extraordinaires de nos jours pour pouvoir rester en contact les uns avec les autres. Mais nous, ce qui nous manque, c'est cet esprit de diakonos. Ô Seigneur, que l'expérience de la chambre haute ne se reproduise pas ici et dans nos églises, mais que ce soit selon acte 6. Que chacun qui prend une responsabilité s'est poussé, rempli de l'esprit qu'il le fait, et à la gloire de Jésus-Christ. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas et qui dit ça m'attire, ça oui, je veux bien, eh bien qu'il se tourne vers toi et qu'il te reçoive. Et tu n'as jamais renvoyé celui qui est venu à toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ et à la gloire de son nom que nous prions. Amen.